Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
www.libradio.org. La radio toute feu, toute flamme.
Nous sommes le 16 décembre, lundi 16 décembre, à l'Almacène, en plein cœur des grottes à Genève, en compagnie d'une membre du Rojava Comité Genève, donc qui va se présenter elle-même et qui va nous dire rapidement quelques mots du comité et comment notamment on peut accoster ce groupe.
Alors donc oui, moi je fais partie du Rojava Comité Genève. C'est un groupe qui s'est créé suite à l'invasion turque du nord-est de la Syrie le 9 octobre 2019, c'est ça?
Oui.
Et donc nous on a pour but de faire de la diffusion d'informations en français, ce qui n'était pas forcément très accessible avant. Et donc à partir d'octobre, on a commencé à faire des comptes rendus journaliers sur un fil Telegram, sur une page Facebook et une page Instagram pour pouvoir garder les gens au courant de ce qui se passe là-bas.
Alors la problématique kurde, elle est bien entendu intimement liée au président turc actuel qui est Recep Tayyip Erdogan.
Ouais.
Peut-être voudrions-nous dire quelques mots de qui est Erdogan, puisque c'est cela qui nous fait que l'on se rencontre aujourd'hui, sachant que demain, eh bien, il y a un rassemblement à 11h, Place des Nations à Genève, à l'occasion de l'arrivée, en fait Erdogan est déjà à Genève, mais à l'occasion de sa participation ici à Genève à la toute première conférence sur les réfugiés.
Voilà, donc Erdogan, il est invité dans le cadre de cette conférence sur les réfugiés. Enfin voilà, moi je peux pas parler ni au nom des peuples du nord-est de la Syrie, ni au nom de la diaspora kurde qui est ici en Europe, mais en tant que personne solidaire et en tant que personne suisse solidaire de la révolution du nord-est de la Syrie, qui est actuellement attaquée par le président Erdogan à coups de bombardements intenses. Pour nous, c'est totalement indécent et inapproprié qu'il soit invité à ce forum, sachant que avec cette invasion, il est en train de forcer des gens à se déplacer, de forcer des gens à migrer, à quitter leur maison, à quitter leur foyer. Parce que ça devient insoutenable de vivre au milieu des bombardements.
Effectivement, il y a par ailleurs des déplacements de population qui sont orientés et qui ont cours en ce moment au nord-est de la Syrie, dans la partie du Rojava, où là, effectivement, il y a une problématique extrêmement grave qui se joue en ce moment même. On va pas revenir là-dessus maintenant parce qu'effectivement, ce serait un petit peu trop long. Mais alors, pourquoi Erdogan est là à Genève en ce moment? Que vient-il faire ici à Genève?
Donc, il vient parler du problème des réfugiés, parce qu'il faut savoir que la Turquie accueille énormément de réfugiés syriens depuis le début du conflit. Et ce qui est complètement incroyable, c'est qu'en fait, Erdogan, il utilise les réfugiés qui sont parqués donc dans des camps en Turquie comme une menace et comme une pression sur les gouvernements européens, qui ont alors une politique d'immigration qui est totalement discutable. Mais c'est dingue qu'ils soient invités pour parler de trouver des solutions à tous ces réfugiés, alors qu'ils les utilisent vraiment comme un moyen de pression pour que ces politiques à lui qui sont complètement discriminatoires envers les Kurdes et envers les peuples du nord-est de la Syrie, qui sont invités à parler d'une oui. solution pour les réfugiés, alors qu'en fait, ils les utilisent vraiment comme un moyen de pression pour pouvoir lui mener ses politiques dans son pays. Et pas forcément pour trouver une solution pour ces réfugiés. Par rapport, en tout cas, au peuple kurde, qui mène vraiment une politique discriminatoire, donc il y a toute une partie du peuple kurde qui est basée en Turquie, donc plutôt au sud de la Turquie, et qui ont un parti, qui ont une très forte présence politique, et puis donc le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, en Turquie, est considéré comme une organisation terroriste. Il y a, depuis le début de l'invasion, beaucoup de maires de tous les villages et de toute la partie kurde au sud de la Turquie qui ont été arrêtés, qui ont été enlevés et qui sont empêchés de faire leur travail et qui, qu'il n'y ait plus une présence kurde qui soit forte politiquement au sud de la Turquie.
D'accord, donc on pourrait également citer le cas d'Abdullah Öcalan qui est en
oui,
prison.
Qui est en prison depuis 20 ans à peu près.
Et puis peut-être effectivement rappeler que Erdogan, il est le cofondateur de l'AKP et que c'est un parti dont on peut dire qu'il est islamo-conservateur pour le moins oui. et que non seulement il est déjà de cette extraction-là, mais qu'on peut dire que depuis le coup d'État raté, eh bien, il a non seulement effectué des purges au sein même du gouvernement, mais il est passé vraiment à un régime, alors on dit régime présidentiel plutôt que régime parlementaire, mais c'est clairement une dérive autoritaire.
Voilà, donc il y a vraiment un nettoyage ethnique qui se fait et en Turquie et donc maintenant au nord de, au nord-est de la Syrie pour vraiment faire une zone tampon arabe entre les Kurdes de la Turquie et les Kurdes de la Syrie pour qu'il y ait le moins possible de contact entre eux, qu'il y ait le moins possible d'organisation entre eux et pour... Voilà, pour changer complètement la démographie de la région. En
fait. Absolument. Alors est-il, selon toi, important de soutenir, est-il impératif de soutenir la lutte kurde, la lutte au Rojava, pour contrer également Erdogan ?
Oui, bien sûr. Bah, alors il y a le fait d'être solidaire avec des peuples qui se font actuellement massacrer. Alors ça, c'est totalement de façon non politique. C'est hyper important de soutenir des gens qui se font massacrer. Mais après, il y a aussi le fait que les Kurdes, ils sont... Donc le peuple kurde est présent en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran. Et donc c'est un peuple qui est très important et qui n'a pas de pays, qui n'a pas de nation et qui s'est fait discriminer par ses gouvernements dans les quatre régions où ils sont présents et présentes et qui mène actuellement en Turquie et en Syrie surtout un projet révolutionnaire écologiste, féministe, dans une région du Moyen-Orient qui est généralement considérée comme un endroit où les femmes ont très peu de droits, où voilà, il y a beaucoup de pétrole, donc il y a beaucoup d'intérêt aussi pour les puissances étrangères qui ont une politique super impérialiste par rapport à ça et qui soutiennent aussi Erdogan parce que le projet révolutionnaire des Kurdes, qui touche maintenant aussi d'autres ethnies au nord-est de la Syrie, c'est une menace aussi pour eux, leurs intérêts dans la région.
Oui. Absolument. Et on observe, il faut quand même le dire, un silence assourdissant de la communauté internationale, des instances internationales concernant cette problématique kurde. Peut-on l'expliquer également par ce projet de confédéralisme démocratique qui a cours sur le terrain et qui peut peut-être effrayer également les autres régimes, voyant qu'il y a une autogestion féministe, écologique, comme tu le dis?
Oui, ben c'est sûr que c'est une menace parce que c'est pratique pour les gouvernements européens de dire que voilà, le Moyen-Orient, ils n'arrivent pas à se gérer tout seuls et qu'ils doivent avoir une emprise sur les politiques dans la région et qu'en fait, qu'il y ait ce projet de confédéralisme démocratique qui marche et qui vient d'une idéologie des Kurdes, mais qui en fait au nord-est de la Syrie concerne actuellement des populations arabes, arméniennes. Enfin, c'est dans la lutte contre Daesh. Les villes ont été libérées et qu'il y a cette autonomie qui maintenant fonctionne plus ou moins.
Bien sûr. En tout cas, qui est mise à mal également
par... Qui est attaquée. Et voilà, c'est qu'en fait, l'invasion turque, c'est une invasion et un massacre qui concerne la population kurde, mais qui concerne majoritairement ce projet démocratique révolutionnaire qui est une menace pour les pays autour.
Absolument. Alors revenons-en aux réfugiés. Justement, on peut dire qu'il y a un chantage aux réfugiés que Erdogan pratique envers notamment l'Europe en disant, ben voilà, moi je vais pouvoir ouvrir les vannes d'une certaine manière, vous allez être envahis par des hordes de migrants. Et parmi ces personnes-là, parmi ces réfugiés, eh bien il y aura certainement également des personnes suspectes, etc., des criminels en puissance.
Oui, Ouais, donc Erdogan menace de d'ouvrir les frontières, de laisser passer tous les réfugiés en Europe. Évidemment, les gouvernements européens ne sont pas prêts à sanctionner l'invasion parce qu'ils ont peur qu'il y ait cette vague d'immigration qui arrive en Europe. Mais on peut aussi se demander si pour les gouvernements européens, c'est pas aussi un peu pratique d'aller étouffer cette révolution dans l'œuf, pas qu'elle se propage, pas qu'elle marche. Et puis c'est une trahison complètement des combattants kurdes et des combattantes kurdes.
Oui.
Qui ont lutté avec la coalition internationale sur le terrain qui était le plus touché, qui était le plus présent et qui ont eu, enfin qui ont, il y a le plus de martyrs, c'est des martyrs kurdes dans la lutte contre l'État islamique.
Mmh, tout à fait. Avec un apport des bataillons internationaux également qui se sont rendus, donc des personnes qui de tout pays et du monde entier eh bien, se sont rendues pour résister contre Daesh, l'État islamique.
Et donc depuis aussi l'invasion turque, il y a une résurgence des mouvements islamistes en Syrie. Il y a de plus en plus d'attaques qui sont revendiquées par Daesh alors que Daesh avait plus ou moins battu en retraite et en tout cas ne contrôlait plus de territoire physique. Et depuis l'invasion turque, il y a beaucoup de personnes qui se sont échappées des prisons, qui sont aussi en plus des prisons qui sont contrôlées, qui sont tenues par les Kurdes, qui doivent nourrir tous ces prisonniers. Et donc voilà, c'est un vrai problème.
On sait qu'effectivement, il y a des évasions multiples, justement, de ces camps de personnes qui veulent, qui le dit clairement, hein, qui vont rejoindre les rangs de Daesh. Comment se tenir informé pour des personnes voilà qui vont écouter ces paroles sur cette situation-là, sur la situation, parce que ça fait maintenant quasiment environ 70 jours que la guerre a éclaté. Les informations filtrent, mais peu et mal. Comment est-ce que, voilà, vous, au Rojava Comité Genève, eh bien, vous arrivez à vous tenir informé et à nous tenir informés également?
Ouais, alors nous, on utilise beaucoup la plateforme Rojava Resiste, qui existe en Italie, qui est donc une très grande plateforme et qui tire beaucoup d'informations, qui fait ses comptes rendus d'après le Rojava Information Center, qui est donc une organisation médiatique qui est sur place au nord-est de la Syrie et qui donne les informations vraiment factuelles sur les attaques, les morts, les bombardements, etc. Donc les informations viennent beaucoup de là. Et puis.
Et du coup, vous, de quelle manière est-ce que l'on peut vous accoster via les réseaux sociaux? On peut voir le travail que vous faites et les informations que vous relayez?
Oui, après, on relaye aussi, nous, beaucoup d'informations sur les actions et les manifestations qui sont menées, sur la résistance qui est menée en Europe par les personnes solidaires, par les internationalistes. On a aussi des contacts avec des internationalistes qui sont là-bas, sur place, soit en tant que combattantes, soit en tant que. Que personne qui vient soutenir la révolution d'une autre manière, donc du personnel médical, etc. Et puis, on soutient et puis on partage aussi les campagnes qui sont menées. Il y a des campagnes qui sont menées par le Secours Rouge Genève, par exemple, pour du matériel pour les personnes qui résistent là-bas.
Donc, voilà. Très bien. Est-ce que, selon toi, depuis ta position, tu sens qu'il y a une solidarité importante, durable et solide qui a cours?
La solidarité, elle se construit, c'est via le fait de sensibiliser les gens, donc d'avoir le plus d'informations possible, d'en parler le plus possible, que ce soit un sujet qui soit présent partout, c'est-à-dire que là, la venue d'Erdogan, il n'y a pas forcément tout le monde qui est au courant de ce qui se passe en Syrie, donc ils vont pas forcément voir le problème à ce qu'il soit là. Donc c'est hyper important de tenir les gens informés.
D'autant qu'il vient pour une cause, disons, que l'on pourrait nommer noble, dont on va parler dans quelques instants. Quand je dis noble, c'est parce que c'est le premier forum mondial sur les réfugiés, qui est issu du pacte mondial sur les réfugiés, qui aurait en tout cas comme atout le fait de dire, eh bien, on va redonner d'une certaine manière, avec plein de guillemets, une forme de dignité aux personnes réfugiées. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, après, il y a des différences entre ce qu'on appelle une personne migrante, une personne réfugiée, statutairement, je veux dire, voilà, mais l'excuse, en tout cas, est là. C'est que cette réunion, elle a cours au HCR, au commissariat aux réfugiés, suite au pacte mondial sur les réfugiés qui a été signé par les 180 pays de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ne l'ont pas signé, il faut quand même le dire, les États-Unis. La Hongrie, il y a eu 3 pays qui se sont abstenus, mais la Turquie l'a signé. Et donc voilà pourquoi, eh bien, comme orateur, Erdogan se pointe et puis il veut faire une sorte de réfugié washing, pourrait-on dire.
Ouais, c'est complètement hypocrite. C'est comme tu l'as dit, c'est de venir pour une cause noble et de se nettoyer un peu les mains, alors qu'en fait, il est la cause même du déplacement de milliers de personnes. Donc c'est complètement contradictoire qu'il soit là et qu'il soit invité à parler. Après voilà, oui, la Turquie accueille beaucoup de réfugiés, ça c'est un fait. Mais quand on considère que politiquement ces réfugiés sont utilisés comme une menace et comme un moyen de pression. C'est difficile de dire qu'il a en tête le bien-être et la dignité des personnes qui sont sur son territoire.
Alors l'idée, c'est de lui dire qu'il n'est pas légitime ici, en tout cas pas à ce moment-là et pas à cette occasion-là, et dans d'autres également. Alors voilà, c'est donc demain ici à Genève, donc
mardi 17 décembre, il y a donc un rassemblement qui est organisé par le Centre culturel kurde des droits de l'homme, qui est basé à Genève. C'est un rassemblement à 11h sur la place des Nations, pour crier haut et fort que nous, on trouve pas légitime que Erdogan soit invité à ce forum, qu'on n'est pas d'accord que la Suisse l'accueille et le protège et lui donne la parole.
Cette mobilisation, est-ce qu'elle est appuyée et par qui? Est-ce que vous avez trouvé des alliés assez facilement, ou est-ce que la complexité de la question kurde et tout ce qui va autour, eh bien, fait que c'est plus compliqué de communiquer là-dessus?
Alors, moi, de mon point de vue, après, je suis un petit peu peut-être noyée dans un contexte et un cercle de gens qui sont solidaires à cette cause, mais j'ai l'impression qu'en tout cas pour toutes les personnes, la diaspora kurde et les personnes qui sont ici solidaires, c'est assez clair que c'est pas du tout ok qu'ils soient là. Voilà, après, comme ouais. je dis, je suis un peu enfermée, moi, dans oui. mon cercle militant de personnes qui sont d'accord là-dessus. Donc, c'est vrai que je me rends pas compte à quel point c'est facile ou pas d'argumenter pour des personnes qui seraient pas du tout informées.
Et par rapport aux alliés, alors, est-ce qu'il y en a de nombreux qui assez rapidement vous ont rejoint ou sont en train de vous rejoindre, je pense. Effectivement, parce que tu as parlé, il y a un premier cercle, le Rajava Comité en fait partie, la Société démocrate kurde de Genève également, j'imagine, enfin les entités kurdes locales, mais est-ce que ça dépasse un petit peu ce premier cercle-là avec, je sais pas, par exemple des syndicats, la CGAS ou qui?
Alors, en tout cas, le Centre culturel kurde a invité des partis à venir participer à ce rassemblement, à prendre la parole à ce rassemblement. Donc, faudra voir demain combien d'organisations sont là pour prendre la parole et pour soutenir. Mais en tout cas, par exemple, le premier rassemblement qui avait eu suite à l'invasion, il y a pas mal de partis qui étaient là, qui avaient pris la parole aussi parce que le problème kurde, c'est aussi un problème qui touche au féminisme, à l'écologie, etc. Et que c'est ça qui se fait étouffer dans l'œuf. Et comme j'ai dit, c'est aussi simplement des gens qui se font massacrer gratuitement et qui sont déplacés. Donc oui, je pense qu'il y aura pas mal de solidarité et d'organisations qui seront présentes.
Très bien. Alors pour dire non à la venue d'Erdogan ici à Genève, pour dire non à ses discours et à la propagande qu'il va répandre alors qu'il est dans des situations catastrophiques et qu'il provoque des situations de crise et de guerre lors de cette guerre de conquête, hein, dont on peut parler comme ça, au Rojava, eh bien c'est mardi 17 décembre à 11h, Place des Nations, ici à Genève, en compagnie notamment et à l'appel notamment du Rojava Comité Genève. De quelle manière est-ce que les personnes pourraient vous accoster? On l'a dit, il y a les réseaux sociaux.
Ouais. Majoritairement, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter sur la page Facebook, sur la page Instagram, pour des questions, des propositions, faire relayer des événements en soutien, ou en tout cas en lien avec le Rojava et en lien avec la défense de cette révolution.
Très bien. Et sinon, eh bien, comme site internet, on va également citer le Secours Rouge, qui est effectivement Secours Rouge Genève et international, oui. qui sont effectivement très actifs sur les campagnes de solidarité opérationnelles avec ce qui se passe au Rojava.
Et puis il y a le Croissant Rouge kurde, Hevazar, qui a une branche suisse, qui se charge en tant qu'organisation humanitaire d'envoyer de l'argent. Ils font des campagnes de soutien, on peut leur envoyer de l'argent et eux envoient de l'argent et des personnes sur le terrain pour soutenir la révolution, pour avoir, vu que c'est une organisation humanitaire, c'est majoritairement pour justement venir en peuple, venir en aide aux personnes sur le terrain, aux populations qui sont déplacées, qui doivent partir de chez eux, qui sont blessées, enfin voilà.
Comment se solidariser? Alors, ce serait de faire un don par exemple au Croissant Rouge kurde, oui. ce serait de s'informer, de se contre-informer et de diffuser cette information.
Oui, c'est ça, ouais, de diffuser les informations, c'est hyper important. Et puis c'est vrai que la question de l'argent et des moyens pour que la solidarité se fasse, elle est cruciale en ce moment.
Très bien.
Il y a un projet aussi, alors j'ai pas en tête le nom, c'est une campagne qui vient de se créer avec des personnes majoritairement de Make Rojava Green Again, et qui, eux, soutiennent là des projets de reconstruction par rapport aux points d'eau qui ont été touchés. Donc il y a des réserves d'eau qui ont été bombardées et c'est vraiment un problème là de nouveau pour les populations déplacées et pour les personnes sur le terrain qui risquent, il y a 400 000 personnes qui risquent de manquer d'eau vraiment dans l'immédiat et qui ont là des projets sur place aussi qui soutiennent pour reconstruire ces points d'eau.
Merci beaucoup. Alors on va également dire que le Rojava Comité Genève a notamment récemment organisé une conférence sur justement quel est ce projet politique et quel danger est-ce qu'il subit en ce moment au Rojava. C'était tout récemment à Unimail. Oui. Le podcast est disponible sur Libre Radio. Et que l'on peut peut-être rappeler que avec le hashtag Rise Up for Rojava, eh bien on tombe sur là également de nombreuses informations concernant cette situation.
Oui.
Merci beaucoup à toi. Bon rassemblement demain et puis à la prochaine.
À la prochaine.